Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie se bat pour les normes du travail dans le secteur de la pêche lors de la réunion internationale sur le thon. Marché automobile indonésien est considéré comme ayant un grand potentiel de développement. Retour des prisonniers étrangers ne tient pas compte du type de crime. Wali Nangro décerne le titre honorifique de Mokuta Alam à la Fédération de Russie. Indonésie fournit une assistance et une formation en matière d'insémination du bétail éthiopien. Indonésie et Pays-Bas signent un accord commun de production cinématographique. Et médecins internationaux demandent que 25 000 patients de Gaza soient évacués. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La proposition du gouvernement indonésien sur les normes de travail dans le secteur de la pêche, mesures de conservation et de gestion CMM, sur les normes de travail des équipages, lors de la réunion annuelle de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, WCPFC21, a finalement été acceptée. L'Indonésie mène cette lutte depuis 2020, avec le soutien partiel d'un grand nombre de pays membres, jusqu'à ce qu'un groupe de travail intersession soit finalement formé, co-présidé par l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande, en tant que représentant de l'Agence du Forum des pêches FFA ou du Forum des pays de la région du Pacifique. Directeur général des pêches de capture, ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Lotaria Latif, a expliqué que les efforts de l'Indonésie lors de la réunion internationale étaient dus au grand nombre de cas de travailleurs sur des navires de pêche qui étaient des citoyens indonésiens et qui avaient subi des violations des droits de l'homme alors qu'ils travaillaient sur des navires étrangers. Dans un reportage d'Antara Jakarta mercredi 4 décembre, Latif a expliqué que la lutte de l'Indonésie a pris du temps. Les discussions sur les propositions indonésiennes durent depuis 4 ans et ont finalement pu prendre en compte les points de vue et les compromis de tous les pays membres. Le CMM entrera en vigueur le 1er janvier 2028 pour donner aux pays membres de la WCPFC le temps d'adopter les règles dans leur réglementation nationale. L'Indonésie a participé à une série de réunions qui se sont tenues du 27 novembre au 3 décembre 2024 à Suva, Fidji. Le marché automobile indonésien est considéré comme ayant un grand potentiel de développement, même si les acteurs de l'industrie ont récemment été confrontés à des difficultés de vente. Le président de l'équipe de travail pour l'industrie des équipements de transport terrestre pour véhicules à moteur non électrique basés sur des batteries de la Direction générale de l'industrie des métaux, des machines, des équipements de transport et de l'électrique du ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, Andy Oscar Lagaligo, a déclaré que le marché automobile indonésien s'est développé rapidement. Selon Andy, l'Indonésie détient une part de marché de 30% avec des ventes d'un million d'unités. Cela est dû à la population de l'ASEAN qui compte 666 millions d'habitants, dont 280 millions de résidents indonésiens. Cité par Antara mercredi 4 décembre, Andy a déclaré que de janvier à octobre 2024, la production de véhicules à 4 roues en Indonésie a atteint 986 000 unités, les ventes intérieurs atteignant 710 000 unités et les exportations atteignant 390 millions d'unités. Parallèlement, Cyrilus Arinowo, économiste principal de l'Université Gadjah Mada, estime également que la croissance future de l'industrie automobile indonésienne est relativement prometteuse. Elle a expliqué que par rapport aux pays du G20, comme l'Inde et Singapour, l'Indonésie connaît toujours une croissance économique élevée. Le ministre indonésien coordonnateur du droit des droits de l'homme, de l'immigration et des services pénitentiaires, Yusril Iza Mahendra, a souligné que le rapatriement des prisonniers étrangers que le gouvernement indonésien a récemment effectué vers plusieurs pays ne prend pas en compte le type de crime. Yusril a déclaré que le rapatriement des prisonniers étrangers était effectué sur la base de principes humanitaires car les types de peines prononcées par les tribunaux indonésiens contre les prisonniers étrangers étaient l'emprisonnement à vie et la peine de mort. Yusril a déclaré à Antara Jakarta mercredi 12 avril que jusqu'à présent, trois pays ont demandé le transfert des condamnés pour délit de stupéfiants vers l'Indonésie, à savoir les Philippines, l'Australie et la France. Yusril a expliqué que le gouvernement philippin avait demandé le transfert de Mary Jane, condamnée à mort, puis l'Australie avait demandé le transfert de 5 condamnés à perpétuité qui étaient membres des Bali Nine, et la France avait demandé le transfert de Serge Atlaoui, condamné à mort. Le transfert de Mary Jane a été accepté par les gouvernements indonésiens et philippins sous plusieurs conditions, tandis que le transfert des condamnés de Bali Nine est en discussion concernant les conditions proposées par le gouvernement indonésien. En attendant, le transfert de Serge Atlaoui est toujours en attente de l'arrivée du gouvernement français pour discuter d'un accord. Plus tard, après avoir été renvoyés dans leur pays, les prisonniers se verront interdire l'entrée en Indonésie, spécifiquement pour les délits liés aux stupéfiants. La dissuasion est valable à vie. Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar a donné le titre honorifique de mais au Kuta Alam, où le titre a coutumier des gouvernements pendant le sultanat d'Aceh Darussalam au gouvernement de la Fédération de Russie et de la République du Tatarstan. Comme cité par un terrain mercredi soir, 4 décembre, Tanku Malik Mahmoud Al-Haytar de Banda Aceh a expliqué que le titre honorifique a été décerné comme une forme d'appréciation de Wali Nangro aux personnalités nationales et étrangères qui ont contribué à Aceh. Le titre honorifique décerné au gouvernement de la Fédération de Russie et au gouvernement de la République du Tatarstan a été reçu par l'ambassadrice adjointe de Russie en Indonésie, Veronika Novoseltseva. Tengku Malik a déclaré que l'attribution de ce titre était une forme de respect et de gratitude d'Aceh pour le soutien de la Russie au progrès de l'éducation, du développement et de la préservation de l'environnement ainsi qu'au progrès culturel et sportif. En dehors de cela, le titre Chut Putru a été attribué à Veronika en reconnaissance de sa contribution et de son rôle actif dans la promotion de la coopération diplomatique entre Aceh, l'Indonésie et le gouvernement de la Fédération de Russie, y compris le gouvernement du Tatarstan. L'ambassadrice adjointe de Russie en Indonésie, Veronika Novoseltseva, a exprimé sa gratitude et sa fierté pour le titre honorifique de Wali Nangro Aceh. Il a souligné qu'il poursuivrait le programme de coopération établi jusqu'à présent avec Aceh dans divers domaines. L'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI à Addis Abeba, en Éthiopie, a déclaré que l'Indonésie avait fourni une assistance, une formation en insémination artificielle pour les bovins dont l'Éthiopie avait réellement besoin en ce moment. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, à Djibouti et auprès de l'Union africaine, Al-Bushra Basnour. Mardi 4 décembre, hors local, lors de sa visite au Centre éthiopien de développement de l'élevage bovin, a déclaré que l'Indonésie était très intéressée par le développement de la coopération dans le secteur de l'élevage avec l'Éthiopie. Sur la base d'un communiqué reçu par Antara jeudi 5 décembre, la visite a été effectuée lors d'une formation à l'insémination artificielle pour les bovins du 26 novembre au 4 décembre 2024 dans divers centres d'élevage de bovins en Éthiopie. Al-Bushra a déclaré que l'Indonésie souhaitait partager ses expériences dans le secteur de l'élevage, en particulier de l'élevage bovin, car l'Indonésie disposait d'une excellente technologie dont l'Éthiopie avait besoin. Le directeur général de l'Institut de développement de l'élevage du ministère de l'Agriculture de l'Éthiopie, Asra Tera, a exprimé l'appréciation du gouvernement éthiopien et ses remerciements au gouvernement indonésien. L'aide de l'Indonésie est utilisée pour accroître la production de bovins laitiers et de boucheries en Éthiopie, qui est encore insuffisante pour répondre aux besoins nationaux et d'exportation. Auparavant, en juillet et octobre 2024, six responsables et chercheurs éthiopiens ont également participé à une formation sur la gestion et l'insémination artificielle du bétail en Indonésie. L'Indonésie et les Pays-Bas ont créé un moment historique en signant un accord de production cinématographique conjointe qui a été officialisée lors du 19e festival du film asiatique Jogja Netpack JIFF à Yogyakarta. Dans un communiqué de presse, l'ambassade des Pays-Bas à Jakarta a déclaré mercredi soir 4 décembre que l'accord avait été signé par le vice-ministre néerlandais de la culture et des médias Barbara Wolfensberger est la vice-ministre indonésienne de la culture Giring Ganesha. La cérémonie de signature s'est également déroulée en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas en Indonésie, Mark Gerritsen, ainsi que d'éminents cinéastes des deux pays, dont Jim Taihutu, Martin Kolhoven et Gary Nugroho. Wolfensberger a déclaré que cet accord est une réalisation longtemps attendue pour les secteurs cinématographiques des deux pays et encouragera la collaboration entre les cinéastes indonésiens et néerlandais. Ainsi, qu'ouvrira la porte à des projets innovants combinant diverses compétences, perspectives et expertises. Outre la collaboration, cet accord augmente également la distribution de films produits conjointement dans les deux pays, élargissant ainsi la portée du public pour les histoires indonésiennes et néerlandaises, en mettant en valeur des récits uniques qui reflètent la riche culture des deux pays. Les médecins de Palestine et du monde ont demandé que le couloir humanitaire depuis la bande de Gaza soit ouverte pour l'évacuation d'urgence de 25 000 patients vers les hôpitaux de Jérusalem oriental. Cette demande a été faite lors d'une conférence de presse à l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem oriental, mardi 3 décembre, au milieu d'une crise humanitaire due à l'agression militaire israélienne qui a paralysé la plupart des installations médicales de l'enclave palestinienne, dans un reportage d'Antara et d'Anadolu. Mercredi 4 décembre, les médecins ont déclaré qu'environ 25 000 personnes à Gaza avaient besoin d'un traitement médical immédiat pour sauver leur vie. Ils ont proposé trois mesures importantes pour surmonter la crise. Premièrement, ouvrir une voie d'évacuation sûre pour les patients vers les hôpitaux de Jérusalem oriental, de Cisjordanie et de pays tiers. Deuxièmement, garantir que la famille puisse accompagner le patient pendant le traitement. Et troisièmement, garantir le droit du patient de retourner à Gaza après le traitement sans être obligé de choisir entre la santé et son pays d'origine. La fermeture de la frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte depuis mai, après qu'Israël a pris le contrôle du territoire palestinien frontalier, a rendu impossible l'évacuation des patients hors de Gaza. Les hôpitaux de Gaza ont été confrontés à des pénuries de médicaments et de fournitures médicales pendant le conflit. De nombreux membres du personnel médical ont été tués et des ambulances ont été ciblées par les attaques israéliennes, a indiqué le directeur principal de l'hôpital Augusta Victoria, le docteur Fadi Al-Atresh. A souligné l'importance de rouvrir les couloirs humanitaires. Il a demandé que tous les patients de Gaza aient la possibilité de recevoir un traitement médical. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et encore le titre. Le Festival interculturel de Penang promeut la culture indonésienne. L'Association des étudiants indonésiens de l'Université ouverte du groupe d'études de Penang a organisé le chapitre 3 du Festival interculturel Indonésie-Malaisie à Georgetown, Penang, dimanche 1er décembre. Environ 200 étudiants indonésiens de plusieurs universités malaises ont participé à ce festival. Le festival a pour but de présenter les arts et la culture indonésienne au grand public. Comme le rapporte Antara, l'activité a commencé vers 11h30 heure locale avec la présentation d'un certain nombre de spectacles. Il s'agit entre autres de la danse de Ksatria, du spectacle de théâtre Roro Jonggrang, de la danse Tok-Tok et du spectacle Dangklung. Le festival est également accompagné de la socialisation consulaire et d'immigration du consulat général d'Indonésie à Penang, ainsi que d'un concours de défilé de mode qui a reçu le soutien des personnes présentes. Le chef de l'Association des étudiants indonésiens du groupe d'études de Penang, Desi Nurfadila, en marge de l'activité, a déclaré qu'à ce festival, ils avaient délibérément invité l'expert du conseil de l'invitation de l'État à Dun de Komtar, Teh Laiheng, parce qu'il voulait montrer la culture indonésienne. L'espoir est que ce festival puisse être un point d'entrée pour inviter d'autres étudiants malais à s'unir pour préserver une culture commune à travers des activités de festival interculturel. Le consul général indonésien à Penang, Wanton Saragi, a apprécié le festival interculturel Indonésie-Malaisie. Selon Wanton, eux qui sont des travailleurs migrants indonésiens et des étudiants de l'université ouverte ont toujours l'enthousiasme et la motivation nécessaires pour organiser le Festival interculturel Indonésie-Malaisie, qui est la troisième fois cette année. C'est pourquoi le consulat général d'Indonésie à Penang apporte un soutien optimal à la mise en œuvre du festival. Pendant ce temps, l'expert du conseil de l'invitation de l'État, Adun Komtar Teh Laiheng, présent au festival, a exprimé son admiration car cette activité a été réalisée grâce à une bonne collaboration avec diverses universités de Malaisie. Il espère que les activités pourront se poursuivre avec plus d'enthousiasme l'année prochaine en y ajoutant la culture malaise afin que les relations entre les deux pays se rapprochent. En plus d'être présent et inauguré par l'expert du conseil de l'invitation de l'État, Adun Komtar, Teh Laiheng et le consul général indonésien à Penang, Wanton Saragi. Il y avait également le directeur de l'Université ouverte de Medan, Yasir Riyadi, des centaines d'étudiants de l'Université ouverte du groupe d'études de Penang, qui étaient également des travailleurs migrants indonésiens à Penang, ainsi que la communauté et les représentants des organisations communautaires indonésiennes là-bas. C'est auditeur, c'était la Quai diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 5 décembre 1959. Le jour de la flotte indonésienne a été fixé. La journée de la flotte indonésienne est célébrée tous les 5 décembre. La flotte de la République d'Indonésie est une unité de l'armée nationale indonésienne qui est responsable en tant que force de combat de la marine. Le 5 décembre 1959, le chef d'état-major de la marine de la République d'Indonésie, le commodore de marine R.E. Martadinata, a inauguré la formation de l'organisation de commandement de la flotte de la République d'Indonésie. Sur la base du décret du chef d'état-major de la marine numéro SCEP 4033 XL 1987, du 17 novembre, il était stipulé que chaque 5 décembre est célébré comme la journée de la flotte indonésienne. Passons maintenant à l'événement sur la commémoration de la Journée internationale des volontaires. La Journée internationale des volontaires est célébrée chaque 5 décembre. Le 17 décembre 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 décembre comme Journée internationale de la commémoration des volontaires. Cette journée est célébrée pour honorer et apprécier les contributions des volontaires aux activités humanitaires à travers le monde. La Journée internationale des volontaires est également célébrée pour sensibiliser au rôle important des volontaires dans la réalisation des objectifs de développement durable au niveau local, national et international. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la communication de la Journée mondiale des sols. La Journée mondiale des sols est célébrée chaque 5 décembre. La Journée mondiale des sols est célébrée comme un moyen de faire campagne sur l'importance du maintien d'écosystèmes des sols sains et de la gestion durable des ressources du sol. L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 décembre 2014 comme la première Journée mondiale des sols. Cette date a été choisie car elle coïncide avec l'anniversaire du roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, qui est l'un des principaux soutiens de l'initiative de communication de la Journée mondiale des sols. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Ku berandai kau di sini mengobati rindu ruai dalam sunyi. Sendiri meratapi perasaan yang tak jua didengar. Takkan apa bila rasa ini tumbuh sendiri.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie. Et pour le titre, Bappenas affirme que l'accélération de l'économie verte nécessite une réforme des écosystèmes. Le vice-ministre de la planification de développement national en tant que chef adjoint de l'Agence nationale de planification du développement PPN Bappenas, Febrien Alfianto Diat, a déclaré que l'accélération de la transformation de l'économie verte nécessite la réforme de la politique des écosystèmes plus propice. Lors du dialogue national sur l'accélération de la transformation économique verte qui a été suivi virtuellement à Jakarta mardi, Febrien a déclaré qu'une réforme favorable des politiques écosystémiques, en particulier dans les secteurs prioritaires et les chaînes de valeur, doit être conforme aux objectifs climatiques, à l'amélioration de la qualité de l'environnement, la biodiversité et l'économie circulaire. Un exemple concret de cet écosystème est le renouvellement de la classification standard des domaines d'activité indonésiens et l'adoption des normes internationales d'économie circulaire pour devenir des normes nationales indonésiennes. Selon Febrien Alfianto, l'investissement vert encouragera davantage d'industries et de micro, petites et moyennes entreprises à appliquer des principes durables en s'appuyant non seulement sur le financement gouvernemental, mais également en obtenant des catalyseurs de diverses sources de financement innovantes. Il a également souligné l'importance d'une orchestration solide pour renforcer la collaboration entre les parties. En outre, le transfert de connaissances et d'expériences technologiques est nécessaire pour garantir que la transition verte soit inclusive et durable. Il a ajouté que pour réaliser la vision de l'Indonésie dorée 2045, une transformation économique est nécessaire qui est mise en avant par un changement de la structure économique des secteurs moins productifs vers des secteurs plus productifs ou industrialisation et le déplacement de la productivité intersectorielle. Dans la transformation économique, une stratégie économique verte est mise en œuvre, à savoir un modèle économique qui soutient le développement durable en mettant l'accent sur des investissements et une accumulation de capital plus vert, des infrastructures vertes et des emplois respectueux de l'environnement. Toutes ces stratégies, selon lui, visent à réaliser le bien-être social et la durabilité environnementale. Les réalisations de l'Indonésie dorée pour la mise en œuvre d'une économie verte devraient pouvoir contribuer à une croissance économique jusqu'à la moyenne de 8% à la fin de la période du plan national de développement à moyen terme 2025 à 2029. En dehors de cela, on espère également qu'il pourra atteindre l'objectif de zéro émission net ou zéro émission de carbone en 2060 ou avant. L'Agence nationale de planification du développement, BAPENAS, a compilé l'indice de l'économie verte, IEH, qui est devenu un indicateur impératif pour les gouvernements locaux. L'IEH se compose de 15 indicateurs sélectionnés utilisés pour suivre les réalisations des activités économiques vertes dans toute l'Indonésie. Selon Rudiat, ce modèle met l'accent sur l'investissement vert, le développement d'infrastructures respectueuses de l'environnement et la création d'emplois qui soutiennent la conservation de la nature. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
memutar kembali waktu yang telah berjalan, tuh kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces étapes, Bengkulu pourrait être l'une de vos destinations touristiques. Cette province de l'île de Sumatra possède de nombreuses attractions touristiques intéressantes à explorer. L'une des plus populaires est la plage Panjang. Cette plage, visitée par de nombreux touristes locaux et étrangers, offre une vue imprenable sur le sable blanc et les vagues de Ferland. L'emplacement est très stratégique. La distance est d'environ 3 km avec un temps de trajet d'environ 15 minutes. Comme son nom l'indique, la plage Panjang possède une côte de sable blanc qui s'étend sur 7 km. Cette plage ne possède pas de récif coralliens. La largeur de la plage peut donc atteindre 500 mètres à marée basse. Pour accéder à cette plage, il suffit de payer un ticket de stationnement pour véhicules. En entrant sur la plage Panjang, vous verrez des rangées d'épicéas et des pins, ce qui différencie la plage Panjang Bengkulu des plages en général qui sont généralement dominées par des cocotiers et des palmiers. Chers auditeurs, la plage Panjang a des eaux et des vagues calmes. Cette plage est donc sûre pour ceux d'entre vous qui veulent nager, surfer, jouer dans l'eau et pêcher. Le sable blanc est très fin, ce qui le rend propice au jogging ou à une promenade matinale rafraîchissante. Cette plage est également un choix idéal pour se détendre ou profiter de la beauté du coucher de soleil. La plage Panjang est célèbre comme emplacement de camping la nuit, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer la nuit, des hôtels ou des chalets y sont également disponibles. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Oh, rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan.
bersama.
Voice of Indonesia.
Serge Litar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter élève AITE Indonesia. Le président de Microsoft ASEAN, Andrea Della Matia, a révélé que la technologie de l'IA a le potentiel de contribuer plus de 366 milliards de dollars américains, environ 5,8 quadrillions de roupies, au produit intérieur brut de l'Indonésie en 2030. Toutefois, le manque de compétences et de talents dans le domaine de la technologie numérique et de l'IA reste le plus grand défi dans les efforts visant à exploiter ce potentiel. Par conséquent, Microsoft, en collaboration avec le ministère de la Communication et du Numérique, présente une initiative visant à connecter les organisations, l'établissement universitaire et les institutions afin de renforcer les capacités des ressources humaines et les capacités dans le domaine de la technologie numérique et de l'IA. L'initiative prend la forme du programme Élève AITE Indonesia. Lundi dernier, Élève AITE Indonesia vient d'être lancé par le ministère de la Communication et de Numérique en collaboration avec Microsoft Indonesia. Élève AITE Indonesia est une initiative visant à doter 1 million de talents indonésiens des compétences en IA, ce qui est nécessaire pour tirer parti des opportunités présentées par cette technologie. La ministre des Communications et du Numérique, Mme Mutia Hafid, espère que le programme Élève AITE Indonesia pourra accroître la compréhension et la capacité des jeunes à utiliser la technologie de l'IA. Dans la mise en œuvre Élève AITE Indonesia, les partenaires du gouvernement, de l'industrie, des établissements d'enseignement et des communautés seront impliqués pour connecter les talents indonésiens aux nouvelles opportunités présentées par l'IA en termes de productivité, de créativité, de qualité de travail et d'innovation. Avec un objectif d'un million de personnes fournissant des compétences en IA au peuple indonésien, Microsoft le divisera en 5 initiatives principales, préparant les institutions gouvernementales à se concentrer sur l'encouragement des compétences en IA au niveau national, en intégrant l'IA dans l'industrie nationale, préparer les compétences en IA dans le monde de l'éducation, améliorer les compétences en IA pour les communautés et démocratiser l'IA pour chaque individu. Dans chacun de ces piliers, l'accent n'est pas seulement mis sur l'apprentissage ou le perfectionnement des compétences, mais aussi sur la manière d'identifier les problèmes ou les défis et d'inclure les opportunités cruciales sur la manière d'utiliser les connaissances du secteur ainsi que l'IA pour pouvoir résoudre ces problèmes. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Nougui. Cher ami, Agustinus Gusti Nugroho, mieux connu sous le nom de Nougui, est un acteur et chanteur indonésien. Il sort une trilogie d'albums intitulée Bumi, 1995, Air, 1996 et Udara, en 1998. L'un des singles de l'album intitulé Pelukis Malam, la chanson Pelukis Malam décrit l'admiration des humains pour la nature créée par Dieu. Cette chanson rappelle également que les humains sont très petits comparés à la terre et au ciel qui brille à travers la lune et les étoiles. Bon, chagetar, voici Nougui va chanter une chanson intitulée Pelukis Malam. Bonne écoute.
Oh,
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.